Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans 2 Timothée chapitre 2. Et aujourd'hui, mon texte est du verset 1 au verset 2. J'ai intitulé cette étude « La grâce incorruptible de Dieu ». C'est-à-dire, la grâce de Dieu, l'homme ne peut pas changer ni pervertir. Je sais qu'il y en a qui prêche une grâce qui est mixte, c'est-à-dire la grâce dépend de la volonté de l'homme. Et il prêche que Dieu veut bien sauver les pécheurs, mais hélas, il ne peut pas tant que l'homme ne lui donne la permission. Paul appelle un tel évangile un autre évangile. Dans Galates chapitre 1 et le verset 6, en écrivant aux Galates, il disait « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. » Lorsqu'on réfléchit là-dessus, c'est qu'il n'y a qu'un seul véritable évangile de la grâce de Dieu. Je sais que beaucoup prennent ce terme et l'appliquent à leurs croyances ou bien à leurs œuvres, disant que oui, nous prêchons la grâce de Dieu. Mais c'est une grâce prêchée qui dépend de l'homme, conditionnée sur ce que l'homme fait pour que Dieu puisse leur faire grâce. Tel n'est pas le message de la Bible. Et donc, c'est pourquoi ceux que Dieu appelle par sa grâce doivent savoir que sa grâce est incorruptible. C'est-à-dire, il donne cette grâce à qui il veut. Et c'est la grâce qui influence la volonté de l'homme et non pas la volonté de l'homme qui influence la grâce de Dieu. Que ceux à qui Dieu donne cette grâce sont sauvés pour toujours. On ne peut jamais dire qu'il donne la grâce. Il espère donner la grâce, mais hélas, cette grâce n'est pas efficace. La grâce incorruptible de Dieu est une grâce efficace qui accomplit exactement ce que Dieu ordonne. Et c'est pourquoi Paul dit dans Galates 1:7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Donc voilà pourquoi dans cet épître de Paul à Timothée, depuis la première épître, dans cette deuxième épître, il dit à Timothée de se fortifier dans cette grâce, de tenir ferme dans cette grâce. Il s'agit du message de la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ, que l'homme ne peut pas changer. Et que Dieu fait grâce à qui il veut, et que cette grâce n'est pas simplement une offre que Dieu fait aux hommes, mais c'est une œuvre efficace pour et dans ces pécheurs à qui Dieu l'a ordonné. Mais non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent, notez, renverser l'évangile de Christ. Ce n'est pas qu'ils peuvent renverser l'évangile du Christ. L'évangile du Christ est tel quel. Mais ils cherchent à le renverser pour placer à la place de la grâce de Dieu leurs œuvres. Et donc, ça, c'est un contraste à cette grâce incorruptible de Dieu. Alors, avec clarté, Paul écrit aux Galates, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Quelle est la distinction entre la grâce de Dieu, le message de la grâce de Dieu et un faux message? C'est que le message de la grâce de Dieu donne toute la gloire à Dieu en toutes choses. En ce qui concerne le salut, que ce soit le pardon du péché, que que ce soit la justification des pécheurs devant Dieu, que ce soit la réconciliation avec Dieu, la sanctification. Tout vient de Dieu, tout est par grâce. L'homme ne fait que bénéficier de cette grâce. Ceux que Dieu a ordonné recevoir cette grâce. Mais le faux message est un message qui cherche à exalter l'homme et donner à l'homme un certain pouvoir ou devoir de recevoir cette grâce. Et voilà ce qui est prêché. Ça, ce n'est pas l'évangile. Alors, revenons ici dans 2 Timothée chapitre 2 et le verset 1 et 2. Paul dit, « Toi donc, mon enfant, » quand il parle de Timothée comme son enfant, ce n'est pas physiquement parlant, mais spirituellement. C'est Paul qui a pris Timothée à un jeune âge et qui l'a nourri dans cet évangile. Et Timothée a pris et grandi dans ce message de l'évangile sous la tutelle de l'apôtre Paul. Et Paul écrit ici de prison en Rome, mais il écrit à Timothée qui était à ce moment-là à Éphèse pour l'encourager à tenir ferme dans ce message que Dieu a daigné révéler en Paul, mais aussi en Timothée. Et il dit, fortifie-toi dans la grâce. Et notez bien, qui est en Jésus-Christ, il n'y a pas de grâce de Dieu manifestée à part le Seigneur Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous reconnaissons que le temps de notre séjour ici sur la terre est limité. Nous n'allons pas vivre pour toujours dans cette chair, sur cette terre. Donc, nous devons toujours regarder à Dieu et comme Christ a dit dans l'Évangile selon Matthieu, de prier celui qui est le maître de la moisson, qui suscite des ouvriers, peu qu'ils soient, que Dieu les envoie dans son champ pour continuer à semer ce message, l'Évangile qui donne toute la gloire à Christ. Quand je réfléchis sur ces jours que le Seigneur m'a donné déjà et m'a gardé durant toutes ces années pour annoncer, prêcher l'Évangile de Christ. Mais je sais qu'un jour, vous allez apprendre, ou d'autres vont apprendre que Ken est mort et que le Seigneur l'a pris de ce monde. Alors, je désire, et c'est ma prière, que à travers ce moyen que nous sommes en train de faire, le Seigneur continue à susciter d'autres, que Paul appelle ici des hommes fidèles. Il n'y a aucun homme qui est fidèle en lui-même, mais des hommes qui appartiennent à celui qui est fidèle. Parce qu'il n'y a qu'un seul fidèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui le servent sont ses serviteurs. En ce cas-là, ils sont appelés des hommes fidèles, fidèles à prêcher un message qui donne toute la gloire à Christ. Sans regarder aux hommes pour avoir leur faveur, non. Si nous cherchons la faveur des hommes, nous ne pouvons pas être serviteurs de Christ. Mais à travers ce message annoncé, c'est le Seigneur lui-même qui suscite des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous ne sommes pas appelés ici à construire des écoles de briques et de ciment pour former des prédicateurs, des pasteurs comme le monde fait, non. Paul dit simplement ici, dans le verset 2, ce que tu as entendu de moi. Donc, c'est de cette manière que Dieu ordonne à ce que sa parole et son évangile passent d'une personne à l'autre. C'est à travers la prédication fidèle de Christ. Et c'est ainsi que le Seigneur lui-même suscite ceux qui doivent aller prêcher ce même message. C'est à travers la prédication fidèle de l'Évangile. Il y a des gens qui m'écrivent de temps en temps, vous me demandez, mais où est-ce que je recommande qu'ils aillent pour être formés pour le ministère? Et ma réponse est toujours, être formé pour le ministère d'abord dépend de Dieu, mais ça se passe sous l'écoute de l'Évangile à travers un prédicateur que le Saint lui-même a enseigné le véritable Évangile. Parce que Paul écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, et le verset 18, il dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Donc ce message de la croix, le message qui décrit d'abord qui est mort sur la croix, ce n'est pas le bois de la croix, mais c'est celui qui est mort sur la croix que nous devons annoncer. Et non seulement qui, mais pourquoi c'était nécessaire que le Seigneur Jésus-Christ meure sur cette croix. Et aussi pour qui, si c'était une mort qui devait sauver tous les êtres humains, donc il faut dire que Christ a échoué. Et voilà le Jésus qui est prêché dans un faux message, qu'il a donné sa vie, il veut bien que les pécheurs soient sauvés, mais tant que l'homme n'accepte, voilà le terme qu'ils aiment utiliser, alors il est mort en vain. Ça, ce n'est pas prêcher la croix. Notez bien, c'est écrit ici, c'est une puissance de Dieu. Donc, à travers la prédication de cette croix de Christ, sa souffrance à la croix, ce qu'il a accompli ou qu'il a fait, c'est là que Dieu utilise ce message pour non seulement attirer ceux que Christ a sauvés à la croix à lui, mais parmi ceux-là, il suscite d'autres qui sont capables, par la grâce de Dieu, d'aller prêcher ce message à d'autres. Alors c'est là que nous devons mettre l'accent dans nos ministères, pas sur le nombre de gens qui nous suivent, mais plutôt sur le Christ qui est mort, et c'est lui qui attirera en son temps ceux qui doivent entendre ce message. Alors en écrivant ici à Timothée, dans ce chapitre que nous avons devant nous, l'apôtre poursuit ses exhortations à Timothée en ce qui concerne son office, ce qui concerne sa conversion d'abord et puis maintenant sa conduite. D'abord, ça commence avec une conversion, que c'est le Seigneur qui a révélé Christ dans lui et maintenant, à travers ses enseignements de Paul, ses exhortations, comment il doit vivre face aux hommes et face à l'opposition, de s'entendre à cela en tant que ministre de l'Évangile. Si nous considérons ce que Paul a déjà écrit à Timothée dans le premier chapitre, et il continue ici à bâtir sur ce fondement-là, comment vivre cet évangile et continuer à se conformer à cet évangile malgré tout ce qu'il pourrait en souffrir. Parce qu'il faut s'entendre à la souffrance en prêchant ce message qui donne toute la gloire à Dieu. Et il lui fait remarquer ici que la grâce et la force en Christ est ce qui doit le soutenir et le permettre de s'acquitter de son devoir en tant que ministre du Seigneur et de continuer fidèlement, quelle que soit l'opposition. Alors, c'est un message ici aujourd'hui pour notre consolation. Nous qui sommes appelés de Dieu, placés dans le ministère et qui prêchons cet évangile exclusif et distinct de ce que l'homme peut prêcher et continuer vivre, non seulement prêcher cet évangile, mais vivre de cet évangile et être animé par ce même évangile que nous prêchons aux autres. Il faut savoir que ce message de la grâce incorruptible de Dieu est pour notre bien. Il faut que notre cœur et notre âme soient nourris de cet évangile, de pouvoir le prêcher à d'autres qui peuvent aussi bénéficier selon la grâce de Dieu. Donc, d'être animé par ce message et diligent en l'annonçant et souffrir joyeusement. Ce n'est pas un fardeau pour nous de souffrir pour la cause de Christ. C'est pourquoi dans le verset 3 que nous allons voir prochainement, Paul dit « Souffre avec moi ». Il est en train de dire à Timothée que lui, Paul, souffrait à cause de l'évangile et donc les souffrances, c'est pour Timothée de savoir que ses souffrances à cause de l'évangile, il n'est pas isolé, il n'est pas seul. Alors c'est un encouragement pour nous qui sommes des prédicateurs d'avoir cette fraternité en Christ et de partager ce que nous souffrons les uns avec les autres. Comme un soldat, c'est ce qu'il dit dans le verset 4, il n'est pas de soldat. Donc il y a une véritable guerre lorsque nous allons dans le monde et prêcher cet évangile, mais c'est le même Christ qui nous soutient dans cette guerre comme un bon soldat. Alors, dans le verset 1, quand il dit « Toi donc, mon fils », le mot « donc » là continue, ce qu'il était en train de traiter dans le premier chapitre vers la fin, qu'il y en avait qui étaient avec Paul pour un certain temps et puis l'ont abandonné. Nous avons vu ça dans 2 Timothée 1:15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ça fait partie aussi de cette souffrance. Ce n'est pas toujours physiquement que nous sommes persécutés, mais rien ne peine le cœur d'un prédicateur plus que d'avoir des associés qui marchaient pendant un certain temps avec eux et puis maintenant, non seulement ils ont abandonné, mais qui deviennent une partie de l'opposition maintenant. Et ceux qui marchaient avec nous, nous traitent d'ennemis à cause de ce message de Christ. Mais il parle là d'un certain Onésiphore que le Seigneur a suscité pour le consoler. Et comme il a dit, il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il y en a comme ça, quel que soit le nombre qui nous abandonne à cause de ce message précis de Christ, quand même le Seigneur réserve toujours et préserve ceux qui lui appartiennent et ceux-là sont un grand encouragement pour nous de continuer à prêcher, même si nous nous sentons isolés, souvent. Alors, cette appellation ici dans le chapitre 1, le chapitre 2, verset 1, « Toi donc, mon enfant », c'est une appellation qui exprime la tendre affection de l'apôtre Paul pour Timothée et est plutôt utilisée ici pour attirer son attention sur les conseils en tant que vieux dans l'Évangile, les conseils qu'il allait lui donner. Et je dois dire que ceux qui sont plus expérimentés dans l'Évangile, nous en avons eu de tels tuteurs qui allaient devant nous et qui étaient expérimentés dans la prédication de l'Évangile, de qui nous apprenons toujours et que maintenant, ils sont partis, mais nous sommes restés pour continuer à bénéficier de ces enseignements que nous avons reçus d'eux. C'est mon désir. Je suis en train de veiller. Je ne suis pas aussi jeune que j'étais auparavant. Mais ma prière, c'est que de ces expériences, depuis ces années, durant ces années, que le Seigneur lui-même me garde et que je vis de cet évangile, de ce message, que cela bénéficie d'autres, que je peux appeler mes fils dans le Seigneur, dans la grâce de Dieu. Et c'est avec affection alors que je continue à prêcher dans l'espoir qu'il puisse bénéficier et continuer à bénéficier longtemps après que je ne suis plus dans ce monde. Alors, il appelle Timothée, son fils, avec tendresse, ayant lui-même, ce n'est pas Paul qui a converti Timothée. Timothée n'était pas un converti de l'apôtre Paul, mais c'est l'esprit qui convertit, c'est l'esprit qui tourne le cœur vers Christ. Donc, Timothée ayant déjà reçu et bénéficié de cette grâce incorruptible de Dieu, la grâce qui ne peut pas changer, la grâce une fois donnée n'est jamais retirée. C'est à lui, alors qu'il écrit comme un enfant, un fils, pour l'encourager à continuer dans cette grâce, et que Timothée lui-même reconnaît que la grâce qu'il a en Christ, c'est aussi cette grâce qui le qualifie et qui l'anime pour continuer ce travail du ministère. Et donc, c'est pour la gloire de Dieu qu'il doit maintenant continuer à s'attacher avec confiance sur Christ qui est son sauveur et par qui il était sauvé. Alors, quand il dit ici, « Toi, donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Quelqu'un qui n'a jamais reçu cette grâce de Dieu ne peut pas se fortifier dans cette grâce. Il y a beaucoup qui prétendent être les objets de la grâce de Dieu, mais c'est selon leur propre science. C'est par leurs propres efforts qu'ils imaginent qu'ils sont dans la grâce de Dieu. Mais il n'y a aucun pécheur qui puisse se fortifier dans la grâce de Dieu qui n'a jamais reçu cette grâce. Et quelque force ou quelque effort que quelqu'un se met pour se manifester comme étant à Christ, si ce n'est pas réellement la grâce de Dieu, il est séduit et il ne fait que séduire d'autres. Dans Romains chapitre 8 et le verset 39, notons bien comment Paul, écrivant aux Romains, décrit cette grâce de Dieu qui nous soutient et comment nous sommes fortifiés dans cette grâce, ce n'est pas par nos efforts. Ici, dans le verset 37 de Romains 8, il dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Donc, ce mot « vainqueur », c'est aussi dans le terme de guerre et de combat, et d'être des soldats pour la cause de Christ. « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par, notez bien, par celui qui nous a aimés. » Tout est par Christ, pour Christ et à travers Christ. Il dit, car j'ai l'assurance, oh quelle assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, notez, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Notons bien, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà des gens qui prêchent un message perverti et une grâce corruptible parce qu'ils disent que quelqu'un peut être l'objet de la grâce de Dieu pour un certain temps, mais à un certain moment, maintenant, être séparé de Dieu à cause d'un péché quelconque ou autre chose. Ça, ce n'est pas la grâce incorruptible de Dieu. Ici, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ceux qui prêchent que Dieu aime tous les êtres sans exception, mais que tous les êtres sans exception ne sont pas alors sauvés, qu'est-ce que l'amour de Dieu a à faire alors avec le salut du pécheur? Ceux qui prêchent un amour général minimisent non seulement les Écritures, mais minimisent le sens même de l'amour. Que si Dieu a placé son amour sur un pécheur depuis l'éternité, c'est-à-dire que cet amour ne change jamais. Réfléchissons là-dessus, que si Dieu m'a choisi avant la fondation du monde, sachant que j'étais pécheur et que je ne méritais pas sa grâce, mais il m'a aimé. Et que si, lorsque Christ est venu, il est mort sur la croix pour un pécheur tel que je suis, et qu'il a porté ce péché sur lui, et que à travers le temps maintenant, au temps voulu par Dieu, il donne son esprit qui vient m'attirer de mon péché et me fait venir à Christ. Si tout cela est vrai, donc pour quel péché est-ce que Dieu va jamais abandonner un pécheur? Le message qui est prêché que Dieu peut vous aimer, mais en même temps dire à la fin, non, je dois vous envoyer à l'enfer, ça, ce n'est pas la grâce. Ça, c'est un message perverti. Il sait clairement, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, mais notre manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est pourquoi Paul écrit à Timothée ici pour l'encourager. L'Évangile est une déclaration de cette grâce. Et en Christ, c'est cette grâce qui attire les pécheurs à lui. Donc, nous devons nous fortifier dans cet unique message. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il y en a qui sont fortifiés dans la loi. Et voilà les opposants pour lesquels Timothée devait tenir ferme ici. Et c'était souvent ces Juifs qui n'aimaient pas la prédication de la grâce libre de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ils continuaient à s'opposer. Mais ceux qui sont à Christ, tout ce qui concerne ce message est agréable à leur cœur et leur esprit, parce que c'est l'Esprit lui-même qui, par la grâce incorruptible de Dieu, a révélé Christ en eux. Et c'est cette grâce en Christ qui est non seulement sur tous ceux pour qui Christ est mort, mais en eux, par l'œuvre de l'Esprit. Et c'est cette grâce qui les tiennent et qui les gardent durant toute leur vie jusqu'à l'éternité. C'est non seulement la grâce de Dieu, mais la plénitude de la grâce de Dieu. Que quel que soit le péché qui continue en nous, parce que nous sommes dans la chair, mais c'est cette grâce qui nous retient et qui nous garde, parce que Christ lui-même a dit qu'il ne peut rien perdre de ce que le Père lui a donné. Donc, nous avons cette assurance que s'il est mort pour nous, c'est cette mort qui est efficace pour notre salut à jamais. Et ce salut qui est en Jésus-Christ est pour toujours. Alors, quelles que soient les afflictions, les persécutions pour l'Évangile, et je dois dire, quelle que soit l'infirmité de ma chair, ce n'est pas seulement ce qui est nous oppose dans le monde, mais cette chair dans laquelle nous vivons est toujours une chair corrompue. Mais en tout cela, rien ne peut nous séparer de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul encourage Timothée avec ce message, et ceux qui appartiennent à Christ sont aussi encouragés. Donc, dans le verset 2, il dit cela, les choses que tu as entendues de moi. Quelles choses? Ce sont des choses que je viens de décrire. Les choses concernant la doctrine de Christ. Et ce que Paul écrit comme des paroles saines, les mystères de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est révélé ici dans les Écritures, mais Dieu a suscité des prédicateurs comme Paul et Timothée, et j'espère comme nous, à qui il donne cette capacité de pouvoir prendre les choses mystérieuses concernant la grâce de Dieu et les révéler aux autres à travers la prédication fidèle de l'Évangile. Donc, il dit, notez bien, ce que tu as entendu, ce que, il n'est pas en train de parler d'une variété de sujets, différentes topiques, sujets qui prêche tantôt sur ce sujet, ou bien tantôt sur l'autre. Non, ce que, vous voyez, c'est un seul message qui est souvent répété et entendu. C'est ça qu'il dit à Timothée de prendre. Et en présence de beaucoup de témoins, il est en train de rappeler à Timothée que ce n'est pas seulement pour lui, mais pour d'autres qui ont entendu ce même message, de continuer à l'annoncer, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Lorsque c'est écrit ici que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, que l'apôtre Paul parle aussi des témoins des Écritures, comme Moïse et les prophètes, et les Écritures inspirés de Dieu sont des témoins desquels il a lui-même, Paul, tiré ce message qui lui a été enseigné par Dieu et qu'il a livré fidèlement. C'est la doctrine de Christ unique et c'est ce message, il dit à Timothée, de confier à des hommes fidèles, à d'autres. On fait ça, comme je disais déjà, en prêchant ce message, chaque fois, sans déviation. C'est le message de la justification des pécheurs devant Dieu. Le mot justifié veut dire acquitter tout péché et déclarer juste. Dans le mot justification, nous avons le mot juste. Comment est-ce que Dieu peut être juste tout en justifiant les pécheurs? C'est à travers la mort de Christ, unique, point, sans mixture des œuvres de l'homme ou de sa volonté, le pardon du péché, encore la conséquence de l'œuvre de Christ et par Christ. Donc, c'est ce message que nous continuons à prêcher. Oui, d'autres qui n'ont pas l'esprit du Christ en eux, ils vont vouloir entendre d'autres choses et poursuivre autre chose. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de faux prédicateurs dans le monde qui sont prêts à donner aux hommes ce qu'ils veulent, mais pour leur propre perdition, leur condamnation. Il nous faut ce message de Christ, nous devons l'annoncer fidèlement chaque fois, et ainsi ce message est transmis à d'autres qui, selon la volonté de Dieu, prendront ce message et prêcheront ce message à leur tour partout dans le monde. Le Seigneur a ses serviteurs à qui il a révélé le message de Christ. Peut-être que nous ne les connaissons pas tous, peut-être qu'il semble que nous sommes isolés, nous sommes seuls où nous sommes, mais comme Dieu a dit à Élie, il avait préservé 7000 autres qui ne se sont pas s'agenouillés devant Baal. Telle est l'œuvre de Dieu et nous faisons confiance. Nous ne sommes pas en train de chercher des résultats. Je ne sais pas même comment Dieu daignera utiliser ce message. Je suis en train de prêcher à certains qui écoutent maintenant, mais qui sait comment Dieu se servira de ce message plus tard, ailleurs. Nous ne faisons que semer la semence qui est Christ, et c'est lui qui produit les résultats comme il veut. Alors, quand il dit ici, confie-le à des hommes fidèles, c'est la manière de confier cela à des hommes fidèles. avec droiture et intégrité, prêchant exactement ce que la Bible dit concernant Christ, et de le faire fidèlement afin que qu'il apprenne aussi de cette manière à l'annoncer fidèlement à d'autres. Et c'est ainsi que Dieu fait son travail. Alors, que le Seigneur nous fortifie dans cette grâce qu'il nous a faite d'abord et puis qu'il manifestera aussi à d'autres selon sa volonté, cette grâce incorruptible de Dieu. Cela veut dire efficace, qui accomplit exactement ce que Dieu ordonne à sa gloire. Alors que le nom de Dieu soit béni. Amen.